Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Radio Foot en direct du Club France dans le nord de Paris et pour cause, pour la bonne cause en plein jeu paralympique. Radio Foot fait de la place cette semaine à Radio Jeu, rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour RJI. En attendant, on va revenir sur l'excellent début de championnat du PSG. Test réussi à Lille hier, mais Marseille n'est pas loin. Et si la lutte pour le titre prenait des airs de classique, de classico cette saison, en Ligue 1, une Ligue 1 plutôt calme sur le marché des transferts, faute de droits TVLV peut-être. Nous ferons le bilan du mercato en France, mais aussi en Europe, et notamment pour une vedette africaine empêché, Victor Osimhen, le Nigérian, bloqué à Naples. Eux, ils ne sont pas bloqués. Ils viennent nous rejoindre au Club France avec plaisir, j'espère, tout du moins. David Lortolari et Chérif Guémour. Bonjour, messieurs.
Bonjour. Bonjour. Avec plaisir.
Salut, Diouf. En revanche, lui, il n'a pas le choix. Il est bien bloqué, contraint, forcé. À mes côtés, salut Scotty Pippen Diouf. Bonjour.
Bonjour, Hugo. Bonjour à tous. Bah, pas bloqué. Je suis ravi d'être avec vous. Bloqué, c'est un grand mot.
C'est ce que je voulais entendre. C'était un piège. Vous n'êtes pas tombé dedans. Radio Foot, c'est parti. Se croirait dans le film Drive, mais vous êtes bien dans Radio Foot sur RFI. Mais le talent de Mathieu De Gueldre, Goat, tigre de la Goat. Réalisation, nous transporte dans une autre dimension radiophonique. On revient au football, c'était le premier test de la saison pour le PSG. Après les cartons face au Havre et surtout face à Montpellier, Paris se déplaçait à Lille pour le compte de la troisième journée du championnat de France. Succès 3-1, ça fait 13 buts inscrits pour le début de la saison. Pour les joueurs de Luis Enrique, qui, en plus des victoires, vont finir par nous faire croire qu'ils n'ont plus vraiment besoin de Mbappé pour régaler. Derrière Paris, 4 équipes à 7 points, dont Marseille, l'air de Zerbi, démarre sur les chapeaux de roue. 2 victoires entrecoupées d'un nul pour les coéquipiers de Luis Enrique. C'est à Toulouse que l'OM s'est imposé 3-1 ce week-end grâce à un joueur qui a fait ses débuts chez les professionnels au Parc des Princes de Paris, justement, sous les couleurs de Manchester United. À l'époque, vous vous souvenez peut-être de cette victoire 3-1 un peu bizarre en 8e de finale de Ligue des Champions. Il s'appelle Mason Greenwood. Nouveau doublé pour l'Anglais qui en est déjà à 5 buts en à peine 3 apparitions. On rappelle tout de même qu'il n'a rien à faire, sportivement parlant, à l'OM, Greenwood. Si sa carrière n'est pas plus haute aujourd'hui, c'est la faute à des accusations très graves de violences physiques et sexuelles qui ont largement plombé sa trajectoire. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça, David Lortolari et Chérif Guémour. Est-ce qu'on peut arriver, malgré ses 5 buts en 3 matchs, à séparer le joueur de l'homme ? Qui veut prendre cette patate chaude?
Mais Hugo, on peut pas oublier le contexte, on peut pas oublier l'extra-sportif, dans quelques exemples que ce soit. Ça n'empêche qu'ensuite il y a des faits, il y a des jugements, il y a un train de justice, il y a un timing
alors là,
de justice.
Il n'y a pas eu de jugement, c'est des poursuites qui sont abandonnées
et surtout
goût,
voilà. Sa femme qui a retiré sa plainte.
Mais des documents,
voilà,
ont poussé notamment via une enquête interne, des éléments ont poussé via une enquête interne Manchester United à cesser sa collaboration avec Mason Greenwood, à l'écarter, et beaucoup de documents ont fuité même dans les réseaux sociaux.
Ouais, on peut raisonnablement considérer que si on n'a pas de jugement, que si on n'a pas de charges qui pèsent de manière factuelle, le joueur est capable. Lui, de son côté, le public est capable aussi. On parle souvent de la vindicte populaire, on parle souvent d'un jugement hâtif, on parle souvent du tribunal médiatique excessif, etc. Ou hâtif. On peut raisonnablement espérer séparer l'extra-sportif du sportif sur le terrain. La performance, elle est là. Visiblement, lui a aussi, Hugo, un mental, un moral de sportif, de champion. Et on peut aussi, dans ce cadre-là, saluer la performance. Vous disiez les chiffres à l'instant. 5 buts en à peine 3 apparitions, c'est quelque chose qu'il faut saluer.
J'ajoute une passe décisive, Chérif Guémour. Vous êtes comment, vous, sur le cas Greenwood ?
Alors, le cas Greenwood, d'abord, il y a la justice. On rappelle que des affaires extrêmement sensibles, comme l'affaire Benjamin Mendy, la justice est passée, il a été relaxé. On ne peut que s'incliner, on est quand même dans un état de droit. On n'oublie pas les accusations. Pour Greenwood, c'est pareil, il y a des histoires assez sordides, assez violentes. Donc, la plainte a été retirée. Intimidation ou pas, on ne peut pas le savoir. Mais de toute façon... la plainte a été retirée. On n'oublie pas ce qui a été fait. On ne cautionne évidemment pas. Après ça, il y a aussi un principe non écrit qui fait que chaque individu condamné ou poursuivi a le droit d'avoir une deuxième chance. Donc moi, je raisonne comme ça, y compris pour un condamné. Une fois qu'il a payé sa dette d'une façon ou d'une autre, sans cautionner, sans oublier ce qu'il a fait. Donc voilà, on passe dessus. En cas de récidive... personne ne le ratera et ce sera mérité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Maintenant, il y a le sportif. On va rappeler que Mason Greenwood, c'était un immense espoir du football anglais. Ce n'est pas simplement un petit jeune qui était un peu talentueux. Non, c'était vraiment le grand espoir de Manchester United, qui s'en est jamais remis d'ailleurs, parce que c'était leur attaquant. Avec Rashford, ils auraient dû exploser les défenses pendant des saisons et des saisons. Malheureusement, il est arrivé ce qu'il est arrivé pour Greenwood. Grand espoir de l'équipe d'Angleterre aussi, qui, à part Harry Kane, n'a pas retrouvé un attaquant équivalent. Donc voilà, il a été au purgatoire à Rétafé la saison dernière. Il avait déjà bien performé. L'OM a fait le pari de le prendre. D'un point de vue sportif, c'est une pure réussite.
Et ça va... aussi juste une petite précision sur Greenwood. Comme Chérif parlait de sa carrière internationale, qui désormais ne sera plus sous les maillots des True Lions, il entame les démarches pour porter le maillot de la Jamaïque, donc, dont il est originaire de par ses parents.
Voilà.
À suivre cette affaire Greenwood, cette autre affaire Greenwood, un peu moins sordide que la première. Donc sportivement, c'est une réussite. Chérif Guémour l'a dit, David Lortolari. Il vous plaît ce Marseille version Greenwood, façon De Zerbi surtout, l'entraîneur italien qui est l'autre vedette
du
mercato phocéen.
Oui, alors après, il y a quelque chose qui me gêne dans notre présentation à tous, c'est qu'on voudrait considérer que Marseille n'est pas digne du talent de Greenwood ou des choses comme ça. Alors ça dérangera ceux qui se souviennent
du Marseille. Je dirais simplement qu'il n'y avait pas eu l'extra sportif.
Oui, il n'aurait pas été à l'OM.
Il ne serait pas à Marseille aujourd'hui.
Oui, c'est juste.
Vraisemblablement.
Je pense que, alors je parlais du culte de l'immédiateté tout à l'heure, dans lequel il ne faut pas que nous tombions au jour le jour, mais... il n'y a qu'à se réjouir aussi de ces performances-là. Autour de lui, il y a les joueurs qui lui apportent les ballons. On en a cité un ou deux déjà depuis le départ. Il y a cet entraîneur pour lequel moi j'ai une assez forte considération et auquel je donne un grand crédit qui doit tirer l'OM vers ce à quoi il tend toujours. Ses supporters veulent un OM toujours dans les deux premières places. Après, il y a 18 clubs, Hugo. Il y a des clubs qui sont plus faibles, comme Toulouse, l'adversaire de ce week-end. Il y a aussi un Monaco qu'on doit surtout pas oublier dès maintenant.
Et Même nombre de points.
Hein, n'est-ce pas ? Qui aura des arguments à faire valoir au fil de la saison et dans les prochaines semaines. Oui, le Marseille d'aujourd'hui, ça va bien. J'ai vu que les suiveurs, les observateurs sur place, les gens au plan local à Marseille sont emballés, les supporters aussi. C'est le moment de l'être, me semble-t-il.
Et alors, pour Paris, parce que... on peut s'emballer pour Marseille, pour Monaco, pour Nantes, qui a 7 points aussi. Et Paris, Chérif Guémour, 3 matchs, 3 victoires, 13 buts inscrits, 2 encaissés. Mbappé pratiquement oublié, un Barcola qui s'épanouit de plus en plus. C'est quoi le dilemme de Paris ? Surtout ne pas céder à l'enflammade, comme on dit en mauvais français, et qui a tant coûté au club de la capitale française dans un passé pas si lointain. Ou alors, on peut commencer à s'emballer. Il y a vraiment quelque chose qui émerge dans ce PSG.
Incontestablement, la réussite de Luis Enrique en début de saison, c'est la cohérence tactique. Il a enfin trouvé son milieu de terrain. Alors, on va lui reprocher de manquer un peu d'impact, un peu de centimètres, un peu de densité physique. le milieu de terrain est fixé. On n'est plus à chercher entre Fabien Ruiz ou Garté comme l'année dernière. Ça a été un turnover continu. Les joueurs étaient bons, c'est pas le problème. C'est qu'on, comme on n'a pas trouvé la bonne formule, ça a beaucoup flotté. Et ça a été, il y a eu des conséquences en Ligue des Champions. Là, quand on regarde la défense à 4, je parle du 11 de départ avec un ou deux remplacements. L'équipe type, il l'a. Elle est cohérente. On n'attend plus que le latéral gauche,
Nuno Mendes.
Voilà, Nuno Mendes. Et pour le reste, et en attaque, il y avait le point d'interrogation. Barcola, c'est parfait. C'est, on va pas s'attarder. Évidemment, on a vu ce qu'on a vu. Et à droite, avec Dembélé. Et j'ai toujours considéré, moi, que Asensio avait toujours été faux numéro 9. C'était déjà un peu dans ce registre qu'il était au Real Madrid. Et c'est comme ça qu'on le fait jouer. Avec en réserve Kolo Muani qui n'a pas lâché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Kolo Muani n'a pas lâché. Donc voilà, on attend le retour.
Voilà, c'est ça.
C'est cohérent, ça va de l'avant, mais c'est pas encore au point. Mais c'est déjà pas mal.
Salut Diouf.
Est-ce qu'on ne devrait pas y mettre une réserve à ce que vous dites, Chérif ? Parce que vous parliez des couloirs il y a un instant en disant Nuno Mendes d'un côté, Hakimi de l'autre. Hier, typiquement, on est entré dans un cas où Nuno Mendes était absent, donc remplacé par Beraldo, qui n'a pas fait une performance exceptionnelle. De l'autre côté, si Hakimi n'est pas en place, le remplaçant Zaïre Emery, possiblement,
qui n'est pas un expert. Terrain.
Voilà, exactement.
Voilà, le manque de profondeur,
sur l'intensité des matchs qui vont s'accentuer.
David Ortolari,
Lucas Hernandez,
oui,
qui est blessé aussi.
Qui est blessé quand même encore pour un moment.
Mais qui peut jouer latéral gauche?
Louis, l'entraîneur a évoqué quelques solutions, plan B, C, D à ce poste-là. Il n'y en a aucune qui me séduit, moi. Hakimi à ce poste-là, c'est pas forcément génial. Lucas Hernandez, il faut attendre et il est.
Pour dépanner.
Oui. Ouais. Sur le match, avec certes un écart à l'arrivée de plusieurs buts, Hugo, il y a des moments d'alerte malgré tout. Alors moi, c'est, la mémoire défaille parfois, mais on prend des notes, on a des archives, et moi je vois quand même régulièrement après chaque match du Paris Saint-Germain ces derniers temps, avec un gardien de but qui a une très bonne note dans la presse. Ça veut dire qu'il est sollicité. Je vois aussi sur ce match-là, justement, c'est Donnarumma qui, je crois, dévie un ballon sur son poteau à la 12e minute. Voilà, une occasion. Il y a une situation où ça peut revenir de 1-2 du point de vue de l'adversaire Lille à 2-2 dans la deuxième partie du match.
Même les buts refusés sont des vraies occasions.
Bien sûr. Il y a quand même 3, 4, 5 alertes sur un match comme ça qui permettent de dire, bon, OK, Paris Saint-Germain, Hugo, vous disiez, il y a eu 13 buts en 3 matchs. Je ne sais plus exactement le chiffre. Il faut nuancer nécessairement.
La marge n'est pas si énorme, on comprend bien. Peut-être que Paris aurait dû finalement faire une offre pour Victor Osimhen en attaque. Qu'en pense Mathieu De Gueldre ?
Il frappe encore. Ouais, c'est la copie conforme de ce qui s'est passé tout à l'heure. Au deuxième poteau opportuniste, Victor Osimhen.
Osimhen, pour un contre 1. Victor Osimhen, 2-0. Il ne fallait pas lui en promettre plus à Victor Osimhen.
Rachrelia, et ce ballon, il est délicieux. Et Victor Osimhen est de retour. L'aigle masqué qui redonne l'avantage aux Napolitains.
Un aigle qui va difficilement pouvoir s'envoler en ce début de saison. Victor Osimhen, a priori le Paris Saint-Germain, si j'en crois Cherif Guémard, n'a pas vraiment besoin de lui. Et pour le meilleur joueur africain en titre, la seule porte de sortie possible à l'heure où on se parle, c'est l'Arabie Saoudite. C'est un petit peu triste. Sinon, le Nigérian, et c'est vraisemblablement le scénario qu'on peut privilégier, il va rester à Naples, un club avec lequel il a brillé, avec lequel il n'a pas pu se séparer. Et aller à Chelsea, Paris c'était moins sûr. Pas sûr qu'il joue à Naples, même en restant malgré son talent. C'est un gros couac, ce transfert raté à Chelsea dans la dernière ligne droite du mercato.
Une petite précision, il ne pourra pas jouer en Serie A puisqu'il n'est pas inscrit dans la liste.
Jusqu'à la fin de l'année.
Donc j'ai parlé au conditionnel, mais parce que c'est à Aliou Diouf et là pour rattraper mes erreurs, et ben on peut parler sans conditionnel. Du coup c'est un gros couac. Gros coup d'arrêt pour Victor Osimhen.
Il y a des responsabilités partagées. La première responsabilité, c'est évidemment le président De Laurentiis qui a exigé pendant très longtemps une clause de sortie absolument démentielle du 120 millions. Alors, il a un talent extraordinaire. La question n'est pas là, mais l'argent qu'en demandait Dino De Laurentiis était vraiment, vraiment excessif. Donc déjà, ça refroidit pas mal d'ardeur. La piste PSG, a priori, c'est Luis Enrique qui n'en voulait pas. Il a ses raisons. Alors, est-ce que j'approuve ? Je comprends tactiquement, parce que Luis Enrique a toujours peur d'être prévisible et stéréotypé. Donc à partir du moment où on a un numéro 9 et toute une équipe qui joue sur lui, peut-être qu'il a eu peur que ça...
Et pour Osimhen, mieux vaut ne pas aller dans un club où vous n'êtes pas ardemment désiré par le,
et puis
par
après,
le coach.
Et puis après, ouais, voilà, il y a eu les autres pistes, Arsenal-Chelsea, parce qu'il y a aussi Arsenal qui était... Ça a capoté. Alors visiblement, c'est Osimhen qui au départ n'était pas très chaud. Et donc voilà, et puis il y avait une piste saoudienne déjà dès le départ, mais pareil, elle a été bloquée par De Laurentiis qui réclamait 5 millions de plus que les 80 millions que de...
Non, mais on n'a pas envie de le voir en Arabie Saoudite. Le meilleur joueur africain en titre, David Lortolari, et oui, alors, on n'a pas non plus envie de le voir à la cave à Naples avec... Voilà. Même si on réglait les problèmes administratifs, on ose imaginer ce que ferait de lui un Antonio Conte... Qui a fait venir Lukaku, c'est ça ?
Lukaku, qui a pris son numéro 9.
Voilà, et qui est un soldat de Conte du côté de l'Inter Milan, qui était. Ouais. Et Antonio Conte, il faut être avec lui ou
bien sûr.
Rien du tout.
Bien
si
sûr.
Je puis dire.
Alors après, des joueurs qui ont été à la cave ou qui ont été dans un loft ou qui ont été oubliés pendant quelques mois et qui se sont redressés après, il y en a. Donc ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète forcément. Le gâchis, oui, parce qu'on a envie de voir ce joueur-là. Les 120 millions, tout est relatif, c'est sûr. Des erreurs par-ci, par-là, oui. Il y aura un rebond peut-être dès cette saison. À lui aussi d'avoir la responsabilité aussi et d'avoir l'attitude du joueur professionnel qui consiste à rester dans la cour, qui consiste à rester dans le coup pour être apte ici ou là. Dans un club équivalent ou supérieur dès l'hiver qui vient, parce que ça va bouger d'ici là. Hein.
On rappelle qu'il y a eu aussi des polémiques, ou voire un peu plus, que la justice italienne s'est intéressée au transfert en 2020 d'Osimhen de Lille vers Naples. Ça n'a pas l'air très simple toujours ce qui se passe autour du business, Victor Osimhen. Rapidement, allez, 30 secondes chacun, ce mercato en Europe ou en France, c'est bizarre. Le plus gros mouvement aura quand même été celui d'un joueur gratuit, à savoir un certain Kylian Mbappé. On a eu un mercato un peu étrange en Europe, non ?
Oui, il y a des contraintes financières, Hugo, j'imagine, d'un pays à l'autre, de certains clubs à d'autres.
En France, les droits télé.
En France, les droits télé. Dans d'autres, sont des chiffres à rééquilibrer. Les joueurs gratuits, ou ceux qu'on ne voit pas tout de suite, ou ceux qu'on estime de second rang, peuvent être de bonnes surprises. Et puis, de mon point de vue, avec mon prisme allemand, Michael Olise, qui vient vers le Bayern et qui a déjà eu du temps de jeu, qui a fait de très belles choses, c'est un merveilleux attaquant, va confirme déjà. Et c'est le nom que je voudrais retenir pour l'instant.
J'ai un transfert pour vous, David, c'est Füllkrug.
Oui.
De Dortmund à West Ham.
Oui.
C'est un peu surprenant.
Alors,
quand même.
Vous m'accorderez qu'un mercato dont on ressort Füllkrug de Dortmund à West Ham, aussi talentueux et décisif en demi-finale de Ligue des Champions.
Son portefeuille va en profiter.
C'est vrai qu'on n'a pas eu un mercato peut-être aussi emballant. Est-ce qu'il y a des dynamiques différentes ou une dynamique générale quand vous l'expliquez, Cyril Guimard?
Il y a les limites financières. Là, maintenant, il y a un gendarme financier dans chaque pays et qui travaille dur, que ce soit en Espagne, en Bundesliga, en Angleterre. Et sinon, il y a deux transferts qui m'ont intéressé quand même. C'est Alvarez à l'Atlético et le retour de Dani Olmo au Barça, enfin en Espagne. Et ces deux transferts, à mon avis, sont deux marqueurs d'un sans doute retour dans la course de la Liga par rapport à son éternel rival qui est la Première Ligue. À suivre, c'est le transfert.
À suivre également.
Retour de la Liga.
À suivre également dans Radio Foot le feuilleton Mbappé au Real. Mais on va garder ça.
En plus de Mbappé.
Pour demain, mon cher Saliou Diouf, puisque Mbappé là, il prend la direction de l'équipe de France. Mais on va revenir sur son premier doublé en Liga ce mardi. Radio Foot pour ce lundi, c'est déjà fini. Mes excuses à Mathieu De Gaulle qui nous avait prévu un jingle explosif, de ce dont il a le secret pour le mercato. On va se consoler en musique et se retrouver de l'autre côté pour Radio Jeux International. En attendant, le Sud, Nino Ferrer revisité par Guts et Florian Pellissier.